Bonjour mes frères et mes sœurs. Aimez-vous servir? Savez-vous ce que signifie servir? Aimez-vous le mot serviteur? Êtes-vous disposé à être serviteur? Évidemment, il faut définir ce mot, mais le sens est toujours le même. Servir, c'est donner quelque chose. Servir, c'est faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. Servir, c'est rendre la vie facile à votre prochain. En fait, c'est là le but de la vie. Nous sommes ici la plupart du temps pour nous réjouir, pour avoir ce que nous voulons, pour soigner, pour prendre soin de nous-mêmes. Mais nous oublions que vraiment la base du bonheur, le secret du bonheur, la raison pour laquelle nous sommes ici, c'est pour rendre la vie facile à quelqu'un d'autre. Et non pas à nous. Ça vous étonne-t-il? Le fait est que, voyez-vous, à travers la Bible, c'est ce principe que Dieu nous révèle. Le principe même de la vie, la raison pour laquelle nous sommes nés, non, c'est pas seulement pour nous, pour être heureux, mais pour aider notre prochain à trouver le chemin du bonheur. C'est pourquoi le Christ a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Acte 20, 35. Je vous ai cité ce verset lors de mon dernier sermon. Je vous ai dit que j'en parlerai à nouveau, car c'est un sujet immense, on ne peut pas le terminer. Chaque jour, chaque matin, lorsque vous vous levez, pouvez-vous dire que vous êtes prêt à rendre un service pour quelqu'un d'autre? Chaque soir, lorsque vous vous couchez, vous pouvez-vous dire que aujourd'hui, vous avez fait quelque chose pour rendre la vie facile à quelqu'un d'autre? Si ce n'est pas le cas, je pense que vous avez oublier la raison même de l'existence. Si ce n'est pas le cas, je pense que vous avez perdu quelque chose. Et ce quelque chose, c'est l'essentiel dans votre vie. Continuons. Je vous ai parlé dans mon dernier sermon, je vous ai donné des exemples, comment le serviteur, d'après la Bible, est quelqu'un qui est toujours là pour prévoir le besoin de quelqu'un, pour rendre service même s'il n'est pas récompensé comme il faut. Je vous ai montré et je vous montre encore car c'est la base même de la compréhension. Ne vous comparez pas aux autres. Dans tout ce que vous faites, ne regardez pas ailleurs pour voir si ces gens-là sont plus talentueux que vous ou bien rendent meilleur service que vous. Vous rendez le meilleur service possible selon la capacité que le Christ vous a donnée. Vous avez certains talents. Nous avons tous des talents différents. Alors chacun de nous doit travailler d'après ces talents. Vous rappelez-vous 1 Corinthiens 12 que nous avons cité déjà. Le corps a plusieurs membres. Chaque membre du corps a une responsabilité particulière. Mes oreilles ne peuvent pas faire ce que mes yeux font. Ce n'est pas possible. Mes yeux ne peuvent pas faire ce que mes pieds font. Ce n'est pas possible. Ainsi de suite. Ainsi, lorsque vous vous comparez à quelqu'un d'autre, vous êtes perdant. Vous ne savez plus qui vous êtes, pourquoi vous êtes et quels sont vos devoirs. Ce sont là, mes amis, de simples, je dirais, vérités. Ce sont là des vérités de base et elles sont essentielles afin que nous puissions, nous, chacun de nous, puissions trouver le chemin du bonheur. Rappelez-vous, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Pourquoi le Christ est-il venu? Pour donner sa vie. Pourquoi? Pour que vous et moi, nous puissions avoir accès à la vie éternelle. Pour que nos péchés soient pardonnés. Ça, c'est la base même de la mission du Christ. Il est venu donner sa vie. Nous-mêmes, nous devons, nous, donner, si possible, notre vie. Quoique notre vie ne vaut pas grand-chose, mais donner ce que nous pouvons donner pour rendre quelqu'un d'autre plus heureux qu'il ne l'est. Je vous ai montré aussi comment, dans la Bible, nous avons des exemples frappants, des exemples fantastiques, des gens qui n'étaient pas grand-chose, pour ainsi dire, mais qui ont servi, qui ont rendu un service fantastique. Je vous ai montré Tite, l'épître de Tite, où Tite recommande à toutes les personnes, quel que soit leur âge, la façon d'aider leurs prochains, les vieillards, les femmes âgées, les jeunes, les veuves, les femmes mariées, et ainsi de suite. Chacun de nous, nous avons une responsabilité particulière. Dans la Bible, nous avons deux bases importantes. Matthieu 22, si vous l'étudiez, le Christ a dit que si nous aimons Dieu plus que toute autre personne, tout autre être, et si nous aimons notre prochain, nous avons accompli déjà la base de la loi. Bon, ça c'est le principe. Maintenant, continuons à établir sur ce principe. Continuons à mieux comprendre ce que c'est qu'il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Si quelqu'un vous demandait quelle est votre religion, que répondriez-vous? Vous êtes chrétien, d'accord, mais qu'est-ce que c'est qu'être chrétien? Aujourd'hui, dans le christianisme, vous avez toutes sortes de dénominations. Ça, c'est pas mon affaire. Ce que je veux savoir, d'après la Bible, qu'est-ce que c'est qu'une religion? C'est quoi? Comment définir la religion? Est-ce difficile? Oui et non, tout dépend. Si vous donnez votre idée, ça sera votre idée. Mais qu'en dit la Bible? Qu'est-ce que la Bible dit sous l'inspiration divine? L'apôtre Jacques, le frère de Jésus, a défini la religion sous l'inspiration divine. Notez-le. Jacques, son épître, chapitre 1, verset 26. Jacques 1, 26. Si quelqu'un croit être religieux, regardez voir ça. Maintenant, voilà la définition de ce que signifie être religieux. Sans tenir sa langue en bride, et ça c'est important, parce que nous avons tous tendance à parler trop, bien à dire des choses qui ne sont pas nécessaires, qu'il ne faut pas dire. Donc, si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, et souvent nous nous trompons nous-mêmes quand nous pensons dire ce qui est juste, ce qui est bon, d'après notre raisonnement humain, la religion de cet homme est vaine, dit Jacques. Tombez-vous dans cette catégorie? Lorsque vous ouvrez votre bouche, est-ce pour prier, pour louer quelqu'un, pour aider quelqu'un, ou bien pour répandre de bruit, pour calomnier, pour juger, pour critiquer? Si c'est le cas, votre religion est vaine. Ensuite, Jacques définit la religion pure. Regardez voir. Incroyable. La religion pure, dit-il, est sans tache, ça c'est important, devant Dieu, notre Père, donc c'est ça qui compte. C'est pas ce que vous pensez de la religion, c'est pas ce que je pense de la religion, c'est que Dieu pense-t-il de la religion. Donc, la religion pure devant Dieu consiste à visiter les orphelins. Tiens, c'est quoi ça? Les orphelins sont qui? Ce sont les enfants, pour la plupart du temps, qui ont besoin d'aide, qui ont besoin que quelqu'un prenne soin d'eux. En principe, nous sommes tous des orphelins, nous avons tous besoin de quelqu'un qui prendrait soin de nous. Mais le principe ici, c'est rendre service à quelqu'un. Rendre service à quelqu'un qui a besoin de vous, de vos services. Donc, voilà la religion pure. Visiter les orphelins, les veuves dans leurs afflictions. Nous avons parlé la dernière fois de veuves. Et les veuves, c'est qui? Ce sont des gens qui sont seuls. Ils sont affligés. Donc, si vous les aidez, si vous pouvez faire quelque chose, ça c'est la religion pure, déclare la Bible. Ensuite, à se préserver des souillures du monde. Comment définir cette phrase? Se préserver, ou bien se préserver, oui, des souillures de ce monde, c'est tout simplement d'obéir aux lois divines. Lorsque vous faites ce que Dieu vous dit, vous ne participez pas à la corruption de ce monde. Voilà donc la définition de ce que nous appelons la religion pure. Nous avons vu, en moi je me trompe la dernière fois, des exemples dans la Bible des veuves. Des veuves qui, elles-mêmes, avaient besoin d'aide et qui pourtant ont fait elles-mêmes énormément de choses. Des veuves qui ont vraiment aidé, comme Dorcas, que je vous ai cité l'exemple de Dorcas. Dorcas a aidé, a fait sa part, sans savoir qu'un jour, l'apôtre Pierre lui rendrait la vie physique sur cette terre. Mais continuons. Où en sommes-nous aujourd'hui? Nous avons des églises de par le monde. Nous avons des gens qui se croient religieux. D'après la Bible, comme je viens de vous montrer, sont-ils vraiment religieux? Quelle que soit votre religion, vous qui êtes de par le monde et vous qui êtes membre de l'Église, comment est-ce que vous définissez votre attitude? Il y a des gens qui sont chrétiens, mais qui manquent de zèle. Si c'est le cas, vous ne faites pas votre part. Si vous êtes dans l'Église de Dieu et que vous obéissez aux lois divines, mais d'une façon passive, autrement dit, votre cœur n'y est pas, vous n'êtes pas vraiment religieux. Dans Apocalypse chapitre 3, ici, il est question vraiment des églises de Dieu. Il est question des membres de l'Église de Dieu. Car dans l'Apocalypse, vous avez mention de 7 églises. Chacune de ces églises est une église, est l'Église de Dieu. Ce ne sont pas des phases différentes, ce sont des églises qui ont une attitude plus ou moins différente. Et le Christ nous met en garde dans chaque phase de l'Église, nous met en garde contre une attitude que nous devons vaincre. Vous, moi, nous avons tous, chaque jour, des difficultés à vaincre. Demandez à Dieu de vous montrer vos faiblesses, ensuite de faire quelque chose afin que vous puissiez surmonter vos faiblesses. Ici, les 7 églises mentionnées dans l'Apocalypse ont chacune des faiblesses. Alors, Dieu recommande à chacune de ces églises comment faire de façon à vaincre leurs faiblesses afin de pouvoir arriver au but. Et lorsque je vous parlais il y a quelques instants d'une attitude manquant de zèle, d'une attitude qui est indifférente. Regardez ce que Dieu en dit. Apocalypse chapitre 3, verset 14. Ici, il s'agit de l'église de Laodicée. L'église de Laodicée est définie comme une église qui se prétend être dans la vérité, et peut-être c'est le cas, mais qui manque de zèle, qui manque de courage, qui se suffit à elle-même. Si c'est le cas, mes frères et mes sœurs, si c'est votre attitude, il est grand temps que vous changiez. Notez ce que Dieu dit. Je connais tes œuvres, verset 15, Apocalypse 3. Donc, Dieu connaît nos œuvres. Dieu sait ce que nous pouvons faire et ce que nous faisons. Mais ensuite, il dit, je sais que tu es ni froid ni bouillant. Tâchez de bien comprendre. Si vous faites un travail sans intérêt, vous êtes ni froid ni bouillant. Si vous aimez quelqu'un sans vraiment servir, vous y mettre de tout cœur, vous êtes ni froid ni bouillant. Si vous croyez en Dieu, si vous respectez les commandements de Dieu d'une façon désintéressée, vous êtes ni froid ni bouillant. Et qu'est-ce qui se passe? Si c'est le cas, ainsi dit-il, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, verset 16, je te vomirai de ma bouche. Wow. Ça, c'est important. Autrement dit, Dieu nous rejette si nous avons cette attitude. Ensuite, Dieu nous dit, écoute, oublie, parce que nous pensons que quand nous sommes comme ça, tièdes, nous pensons nous suffire nous-mêmes. Et Dieu dit, parce que tu penses que tu es riche, parce que tu penses que tu es bien, il dit, tu es aveugle, tu es malheureux, tu es pauvre. Ensuite, il dit, écoute, change. change, ce que je paraphrase. Il dit, verset 19, moi, dit-il, je reprends, je châtie tous ceux que j'aime. Et donc, dit-il, le verset 20, du zèle, repends-toi. Tout au long de ces églises, de ces sept églises, Dieu donne cet avertissement, repends-toi. Se repentir, c'est de changer de voie. Se repentir, c'est de connaître nos fautes, de les corriger avec l'aide de Dieu, de nous mettre cela à la volonté de Dieu. Ensuite, il dit, donc, change, afin que tu entendes ma voix et que j'entre chez toi et que tu seras avec moi dans le royaume. Je paraphrase. Alors, c'est cette attitude de nonchalance, si vous voulez, de manque de zèle, de tiédeur dans la religion que Dieu condamne. Cette attitude, mes frères et mes sœurs, ne vous permettra jamais de comprendre qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Parce que vous vous suffisez vous-même. Parce que vous pensez que vous faites ce que Dieu veut que vous fassiez alors que vous êtes aveugle. Je vous pose la question, en est-il ainsi en ce qui vous concerne? Toujours dans l'Apocalypse, chapitre 2, cette fois-ci, Dieu prend une autre église, toujours l'église de Dieu, et lui reproche ceci. C'est l'église d'Éphèse. Dieu loue cette église d'Éphèse. Parce que cette église a gardé les commandements de Dieu, mais cette église a aussi failli à quelque chose. Il dit verset 4, Apocalypse 2, « J'ai, dit-il, quelque chose contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Ah, ça encore ça, c'est quelque chose d'important. Quel est votre premier amour? Vos amis? Votre femme? Votre mari? Vos enfants, le travail que vous faites, l'argent, quoi? Quel est votre premier amour? Si Dieu n'est pas votre premier amour, si Dieu ne vient pas avant toute personne en ce bas monde, vous avez nié Dieu. C'est ce que l'apôtre Jean écrit sur l'inspiration divine en citant les paroles du Christ. Il dit, tu as abandonné, dit-il, ton premier amour. « Souviens-toi, dit-il, d'où tu es tombé. » Autrement dit, prenez le temps d'examiner vous-même. Qu'est-ce que c'est que vous avez dans votre vie qui vient avant le Christ, qui a supériorité dans toute autre chose? Si vous découvrez la réponse, sur l'inspiration divine, débarrassez-vous-en. Ce faisant, donc, vous vous approcherez de Dieu. Voilà pourquoi il dit « Repens-toi, dit-il. » Et pratique tes premières œuvres. Certains d'entre vous qui m'écoutez, peut-être la plupart d'entre vous, vous êtes membres de l'Église de Dieu. Vous avez été baptisés par immersion. Vous avez reçu le Saint-Esprit par l'imposition des mains. À cette époque-là, à ce moment-là, quelle était votre impression? Quels étaient vos sentiments? Comment est-ce que vous vous sentiez à ce moment-là? Vous étiez heureux d'être en Église. Vous aviez tous vos péchés pardonnés. Vous aviez reçu le Saint-Esprit. Vous étiez maintenant sur le chemin de la vie éternelle. Ensuite, que s'est-il passé? Voilà pourquoi le Christ a dit, rappelle-toi. Rappelle-toi comment tu es entré dans la vérité. Et repens-toi, autrement dit, change. Ce qui t'a fait perdre cet espoir, et revient donc afin de te mettre sur le bon chemin. Commencez-vous à comprendre. Je répète, je prends mon temps, car cela est important. La seule façon de comprendre toutes ces vérités, la seule façon de comprendre ce que c'est que la religion pure, c'est de savoir que nous sommes nés pour servir. Nous sommes nés pour être des serviteurs. Serviteurs en toutes choses. Non pas seulement envers ceux que nous aimons, pas du tout. Mais serviteurs des gens qui peut-être ne nous connaissent même pas. Même comme le Christ l'a dit, nous devons aimer notre ennemi comme nous-mêmes. C'est dur, c'est difficile, je sais. Nous sommes tous dans le même sac, pour ainsi dire. Mais le fait est que C'est là la base. Le Christ n'est pas seulement pauvre, mais mort pour les bons, pas du tout. Le Christ n'est pas seulement mort pour vous et pour moi, pas du tout. Il est mort pour les criminels. Il est mort pour ces gens qui sont vraiment corrompus. Parce que le Christ nous aime. Voilà pourquoi nous devons nous comprendre cette vérité et rendre service là où nous pouvons servir. Rendre service avec sagesse. Demandez à Dieu la sagesse pour savoir comment servir. Parce qu'il y a des services que l'on rend parfois et ce ne sont pas des services. Je me rappelle l'exemple de... Par le passé, j'étais à Paris. Et comme à Paris, vous savez, lorsque vous marchez, il y a toujours des mendiants. Quelqu'un dit, écoutez, donnez-moi quelques francs pour un café. Alors, si je donne quelques francs pour un café, je sais fort bien qu'il ne va pas prendre son café, il va se diriger ailleurs. Alors, si je donne les quelques francs, ai-je rendu un service utile? La réponse est non. Alors, comment aider cet homme? Vous savez ce que je fais? J'ai fait évidemment, j'ai toujours été gagnant. Je dis, vous voulez du café? Venez. On prend un café ensemble. Il s'intéresse pas, il s'en va. Voilà, voyez-vous. Autrement dit, j'ai fait ma part. Si vraiment il voulait du café, allons-y. Mais il voulait de l'argent pour aller boire du vin, ainsi de suite. Donc, voilà pourquoi je dis, faites preuve de sagesse lorsque vous rendez service. Demandez-vous, est-ce la meilleure façon de satisfaire aux besoins de cet individu-là? Continuons. Parfois, vous êtes bien disposé et vous voulez vraiment servir et ensuite vous changez d'idée. C'est possible, ça arrive. S'il y a une bonne raison, c'est autre chose. Et parfois, c'est le contraire. Vous ne voulez pas, on vous appelle par exemple, et ça arrive aussi, surtout dans l'église, on a besoin de quelqu'un pour nous aider. Quelqu'un d'autre le fasse et vous vous désintéressez. Et ensuite, après quelques réflexions, vous changez d'idée, vous dites non, peut-être il vaut mieux que j'aille faire ma part. Alors, entre ces deux exemples, lequel c'est le meilleur? De ne pas offrir vos services tout de suite, ensuite changer d'idée, ou bien d'offrir vos services, ensuite changer les idées. Voyez ce que le Christ dit à ce sujet. Parce que le Christ en parle aussi, voyez-vous. Ce sont des exemples frappants parce que ça nous donne une bonne compréhension de ce qu'est servir. Aussi, notre attitude, c'est ça qui compte. L'attitude, la base même du christianisme. Rappelez-vous la religion pure. Rappelez-vous, le Christ a dit, il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Matthieu chapitre 21, verset 28. Le Christ a dit, tous ensemble, un homme avait deux fils. S'adressant au premier, il dit, mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Donc, ce père avait besoin d'aide. Ce père avait besoin d'un serviteur. Il demande à l'un de ses fils, écoute, va faire ceci pour moi. Il répondit, je ne veux pas. Voilà une mauvaise attitude, d'accord. Au moins, cet homme a été sincère et il a une mauvaise attitude, il dit, je ne veux pas. Mais qu'est-ce qui se passe ensuite? Quelque chose, peut-être il réfléchit, il se repent. Et là, là. Ça, mes frères et mes sœurs, c'est le secret. Se repentir. Autrement dit, comprendre, changer de voie, changer de conduite. Donc, bien que cet homme, ce frère, a mal commencé, il a changé d'idée, est allé, puis il a fait son travail. Et alors, le Christ continue. Il y avait deux fils, vous vous rappelez. Ça, c'est le premier fils. Il dit non. Ensuite, il change d'idée. Mais il y a l'autre fils. S'adressant à l'autre, la même chose. Ce fils répondit, je veux bien, Seigneur. Autrement dit, oui, j'irai faire tout ce que tu veux. Mais il n'en a pas. Voilà, c'est exactement le contraire. Et le Christ demande lequel de ces deux a fait la volonté de Dieu. Ce sont des exemples. Souvent, votre première réaction, c'est de dire non lorsque quelqu'un a besoin de vous. Mais priez en vous-même, dites à vous-même, est-ce que vraiment je peux faire quelque chose avec sagesse? Si c'est le cas, repentez-vous, changez d'idée, faites-le. C'est l'exemple que vous avez ici. Vous verrez comment, dans ces cas particuliers, vous serez béni par Dieu. Ensuite, lorsqu'on rend service, on a souvent, je dirais, on se trompe de priorité. Vous savez, dans mon travail en tant que ministre, auparavant, j'étais aussi professeur dans un collège. Alors, j'avais en partie mon ministère et en partie le besoin des étudiants qui venaient me voir. Parfois, j'étais en plein au travail, je voulais écrire un article pour notre revue. Voilà que quelqu'un frappe à la porte et dit, Monsieur Appartient, j'ai besoin de vous. Alors, que dois-je faire? J'ai un article à publier, j'ai une échéance, et je vois aussi maintenant un étudiant qui a besoin de moi. Quelle est la priorité? Réfléchissez. Que devrais-je faire? Laisser cet étudiant qui peut-être était dans un besoin énorme, à cause de l'article qui est très important, ça va de par le monde. Alors, vous savez ce que j'ai fait? J'ai toujours dit à Dieu, écoute Dieu, donne-moi la sagesse. Il se peut que cet étudiant avait vraiment besoin. Ça peut être une question de vie et de mort. Alors, j'ai laissé mon article de côté. Et puis, j'ai donné mon temps à cet étudiant. Chaque fois, je vous dis devant Dieu, que j'ai passé le temps ainsi, Dieu m'a donné plus tard le temps nécessaire, ou bien la compréhension nécessaire, la force nécessaire, le talent nécessaire pour compléter le reste de l'article dans un temps record. Autrement dit, le temps que j'ai passé pour aider quelqu'un, Dieu me l'a rendu en me donnant la compréhension de terminer mon travail. Ayez ça en tête. Ce faisant, voyez-vous, vous ne direz jamais, j'ai pas le temps. Cette excuse de ne pas avoir le temps n'est pas valable devant Dieu. Vous avez toujours le temps. Nous avons tous 24 heures par jour, quelles que soient nos occupations. Il y a des gens qui font des miracles avec ces 24 heures. Et il y a des gens qui somnolent pendant ces 24 heures. Il y a des gens qui rendent des services lors de ces 24 heures. D'autres sont paresseux. Et prenons toujours l'exemple du Christ, les paraboles qu'il nous donne, ou bien l'exemple vivant. Si, par exemple, vous voulez prier, et nous devons tous prier, la prière n'est pas une faveur que vous rendez à Dieu. Non, mes frères et mes sœurs. La prière est une faveur que vous faites à vous-même. La prière, c'est comme une nourriture spirituelle. Votre corps a besoin d'une nourriture physique, la prière est une nourriture spirituelle. Donc, vous en avez besoin. Prenez maintenant cet exemple de prière. Vous avez des obligations en ce bon monde, et vous savez aussi que vous devez prier. Alors, si, mettons, quelque chose d'urgent arrive, comme je viens de dire, sans négliger vos prières, pouvez-vous faire de sorte que vous ayez une compréhension de la priorité? Certains d'entre nous prions le matin plus longuement que le soir. C'est bon, ça dépend de vous. Mais le fait est que si vous êtes plus disposé à prier le matin ou le soir, tâchez de ne pas négliger cette heure. Levez-vous un peu de bonne heure le matin s'il le faut. Vous couchez un peu tard, mais ne négligez pas vos prières. Ça, c'est bon. Mais d'autre part, ne prenez pas les prières en tant qu'excuse pour ne pas faire vos devoirs, vos autres devoirs. Commencez-vous à comprendre. Je parle de service. Il faut toujours être serviteur. Il faut toujours prier. Mais la sagesse dont vous avez besoin de comprendre la priorité. Le Christ a dit, vous pouvez faire les deux sans négliger l'autre. Laissez-moi vous donner un exemple. Luc, chapitre, je pense, 10. Non, c'est pas, ça viendra. Luc. Vous savez, souvent, je dis, ce sont des choses que nous savons et nous comprenons, mais pour une raison ou pour une autre, Nous ne faisons pas notre part. Nous cherchons des excuses. Nous cherchons des excuses pour justifier pourquoi nous ne prions pas assez ou bien nous n'étudions pas la Bible. Prenez encore, c'est l'unctus, d'accord, mais je m'arrête un moment. L'étude de la Bible est-elle nécessaire pour vous? Vous direz, je ne sais pas. Ou bien alors vous direz, oui. Si vous ne savez pas, comprenez que l'étude de la Bible, c'est comme de la nourriture spirituelle dont vous avez besoin. Donc, ne négligez pas votre étude de la Bible. Vous aurez toujours le temps d'étudier la Bible et faire les autres choses en même temps si vous avez votre sens de priorité. C'est exactement ce que le Christ a dit dans Luc chapitre 10, lorsqu'il a fait face à une circonstance intéressante. Il y avait une famille, la famille de Lazare avec les deux sœurs, Marthe et Marie. Le Christ va chez elles. Ensuite, Marthe le reçoit dans sa maison. Et Marthe avait une sœur, verset 39, Luc 10, qui s'appelait Marie, et qui était assise aux pieds du Christ. Elle écoutait sa parole. Tandis que Marthe était occupée à faire donc les travaux domestiques. Les travaux domestiques étaient nécessaires, sont nécessaires. Il fallait recevoir le Christ. Il fallait honorer le Christ. Mais à ce moment-là, donc, Marie a choisi d'écouter le Christ plutôt que de s'occuper des devoirs domestiques. Qu'est-ce qui se passe? Marthe se plaigne. Seigneur, dit-il, ça te fait-il rien que ma sœur Marie me laisse seule pour servir? Elle a raison. Elle travaille dur. Et elle a tort parce qu'elle ne sait pas le sens de priorité. Quelle est-elle la réponse du Christ? Parce que Marthe demande, dit-lui, de m'aider. Le Christ lui répond, verset 11, Marthe, dit-il, tu t'inquiètes de peu de choses. Tu t'agites pour beaucoup de choses. Tu t'inquiètes de peu, et puis si et tu t'agites pour beaucoup de choses, dit-il, une chose est nécessaire pour le moment. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Il y a un temps pour tout. Cela ne signifie pas qu'il ne faut pas étudier ou servir, pas du tout. C'est une question de priorité et de sagesse. Dieu vous donnera toujours cette sagesse si vous vous tournez vers lui. Commencez-vous à comprendre. Dans Matthieu chapitre 24, un autre exemple fascinant. Prenez le temps, mes frères et mes sœurs, de lire souvent, je dirais, voyez, souvent, Matthieu 24. Car Matthieu 24 décrit l'époque à laquelle nous vivons aujourd'hui, qui est l'époque de la fin. Nous voyons la situation mondiale se gâter autour de nous. Nous voyons de la corruption, des mœurs. Nous voyons de la dégénérescence humaine à son comble. Nous voyons cette saleté, que ce soit le mariage, que ce soit la sexualité, que ce soit la propagande, tout ce que vous voulez. Nous voyons cette tuerie des gens, cette erreur. Nous voyons tout ça. Lorsque vous voyez tout ça, vous vous demandez, mais où est Dieu? La réponse vous est donnée dans Matthieu 24. Dans Matthieu 24, le Christ dit que ces choses vont se passer, vont arriver juste avant le retour du Christ. Nous sommes à cette époque-là. Dans bientôt, je ne sais pas combien d'années exactement, le Christ reviendra. C'est ça, Matthieu 24. Lisez ce chapitre. Vous verrez les événements qui se succèdent. Ensuite, nous dit une chose, nous mettons en garde, toujours avec servir. Voyez-vous, je vous répète, nous sommes nés pour servir. Au sein de l'Église, Dieu nous a appelés, non pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, non, pas du tout. Pourquoi suis-je appelé? Parce que je suis plus intelligent que les autres? Pas du tout. Meilleur que les autres? Pas du tout. Dieu m'a confié un travail, il faut que je fasse. C'est pour servir. Donc, il faut que je fasse ma part. Vous, de même, et les autres, de même. Lorsque vous lisez Matthieu 24, demandez-vous, est-ce que je fais ma part? Quelle qu'elle soit. Sinon, repentez-vous et commencez à faire votre part. Voilà pourquoi le Christ, à la fin de ce chapitre, vers la fin, il dit, Matthieu 24, verset 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent? Regardez voir. Fidèle et prudent. Le serviteur. Nous sommes des serviteurs que son maître a établi sur les siens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Vous savez quoi? Vous êtes né pour donner de la nourriture au temps convenable à votre prochain. Non pas en prêchant nécessairement. Nous ne sommes pas tous les prédicateurs, mais des besoins de quelqu'un. Ça, c'est la nourriture dont ce quelqu'un a besoin. De gentilles paroles, une aide physique peut-être. Ce faisant, voyez-vous, vous faites votre part, vous nourrissez. Vous faites votre part afin que cette personne ait la réponse de ses besoins. Voilà pourquoi le Christ dit, nous devons être des serviteurs fidèles et pour servir. Et que Dieu nous a appelés pour cette raison, pour leur donner de la nourriture au temps convenable. Une personne qui est malade, qui souffre, vous allez vers elle. Vous lui parlez gentiment. Vous l'encouragez. Vous lui avez donné de la nourriture convenable. Eh oui! Si vous êtes capable, mettons, d'enseigner la Bible, si vous êtes capable, et vous expliquez la vérité, la parole de Dieu à quelqu'un, dans ce cas-là, vous donnez aussi la nourriture convenable. Autrement dit, selon vos capacités, tâchez d'aider, ce faisant, vous donnez la nourriture convenable. Et le Christ dit, quand il viendra, il faut que vous soyez à cette tâche. Je vous dis en vérité, dit-il, verset 27, Matthieu 24, le maître établira ce serviteur sur tous ses biens. Ainsi de suite. Si vous ne faites pas votre part, vous serez puni. Voyez-vous, ce sermon que j'ai commencé la dernière fois, c'est un sermon, on ne peut pas terminer. C'est un sermon qui vous montre comment vraiment aider. Parfois vous dites, mais qu'est-ce que je peux faire? Il y a toujours quelque chose que vous pouvez faire. Je vous ai parlé la dernière fois des femmes. Souvent les femmes disent, moi je suis une femme, je ne peux pas faire grand-chose. Je vous ai montré les veuves, en ce qui concerne Dorcas par exemple, ou bien Anne, la prophétesse. Laissez-moi montrer, si j'ai le temps, les exemples de deux femmes dans l'Église. Des femmes qui, au commencement, n'avaient pas grand-chose à offrir et qui ont joué un rôle qui a fait tourner le sens de l'histoire. Eh oui, une femme peut-elle faire de sorte qu'elle change le cours de l'histoire? Prenons le livre de Ruth. Ruth se trouve dans la Bible juste après les juges, après le livre des juges. Regardez voir cet exemple. Je tâcherai de résumer cette histoire parce que vous n'avez qu'à lire. Prenez le temps de lire, ça vaut la peine. Lisez Ruth dans la Bible et tâchez de comprendre le sens. Il y a un homme qui épouse une femme, Naomi, et ils ont deux fils. Je paraphrase. C'est bon, c'est très bien, tout va très bien pour le moment. Mais la vie n'est pas toujours ainsi. Voilà que, après 10 ans, les deux fils meurent. Et le mari, plutôt, de Ruth, Naomi meurt. Plus tard, ses deux fils épousent des filles. Et voilà qu'après quelques années, les maris meurent. Maintenant, nous avons 3 femmes ensemble. La maman qui est veuve, les deux filles mariées, mais veuves. Je paraphrase. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et ensuite, il y a la misère, la famine. Naomi, qui s'était rendue chez les Moabites, elle veut rentrer donc en Juda. Alors, mais elle ne veut pas prendre la responsabilité de prendre ses deux belles-filles avec. Elle dit, restez où vous êtes, moi j'irai toute seule. Regardez cet exemple. Une veuve, 2 filles veuves, et qui aiment évidemment leur belle-mère, elles ont maintenant un choix. Les deux, au commencement, disent « Non, 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 on ne veut pas, on veut pas aller. » Mais Ruth a une attitude différente. Regardez voir, Ruth dit, Ruth chapitre 1, verset 16, « Ne me presse pas de te laisser, dit-elle, de retourner loin de toi. » Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle voulait? Elle voulait être avec ma belle-mère pour aider. Elle savait que la belle-mère avait besoin d'elle. Elle a donc sacrifié son bonheur à elle, sa vie à elle, son futur à elle, pour aider la belle-mère. On parle de servir. Vous rappelez-vous? On parle de « il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Mais où est le bonheur de cette jeune femme qui a perdu son mari? Où est le bonheur de cette femme qui préfère être seule pour aider sa belle-mère? Elle dit « où tu iras ?» Verset 16, « J'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » Elle savait que le Dieu de Naomi était l'éternel Dieu de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, évidemment. Elle avait le choix. On n'avait qu'à voir le reste. Bon, elle accompagne son mari. Elle retourne en Judée. Elle n'a toujours pas de mari, elle n'a pas de travail. Voilà que, c'est pas la chance, c'est Dieu qui guéride. Elle travaille dans un champ qui appartient à sa parenté Boaz. Boaz était un homme beaucoup plus âgé que Ruth. Mais Boaz était un homme honnête, sincère. Et voit cette femme, cette jeune femme travailler, il se demande qui est cette jeune femme. On lui dit, c'est ta parenté, il comprend. Il veut aider cette femme. Vous disiez, vous savez la peine, c'est le don de l'histoire. Ensuite, Naomi dit à Ruth, écoute, cet homme-là peut être ton mari. Travaille chez lui. Fais son travail, fais le travail qu'il te donne. Boaz lui a donné tout ce dont elle avait besoin, mais elle a gardé une attitude fantastique, honnête, toujours obéir à sa belle-mère, toujours être fidèle à Dieu. En fin de compte, vous n'avez qu'à lire le reste, Boaz a épousé Ruth. Alors, vous direz, eh bien quoi? Eh bien, c'est plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. Par cette union, je dis, c'est dommage que je saute parce que c'est tellement intéressant le tout, mais prenons seulement la fin, je dirais, c'est tout ce que je peux faire. Ruth, chapitre 4. Donc, ils ont eu des enfants, Ruth et Boaz. Voici la postérité de Pérès, qui est donc de la famille. Cette postérité de Naomi. Pérès engendra Hesron, Hesron engendra Ram. Ensuite, Ram engendra Amridab. Amridab engendra Nachikon, peut-être je prononce mal les noms. Nachelon engendra Salmon. Salmon engendra Boaz. Maintenant, voyez-vous, ça c'est la postérité de Boaz. Alors, Boaz engendra Obed. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Tiens, voilà que de cette génération de Boaz et de Ruth est né David. Et le Christ et de cette famille. Voyez-vous, personne n'aurait imaginé cela. Et pourtant, c'était là le commencement de la génération de David. Prenez un autre exemple. J'espère que j'ai encore le temps d'en parler. Une autre femme, alors que Ruth elle-même a changé le cours de l'histoire, une autre femme, elle aussi, a changé le cours de toute une nation. Elle s'appelait... Elle n'avait même pas de nom, c'était une orpheline, pour ainsi dire. Je prends maintenant le livre d'Esther. Là, encore une fois, vous étudiez ce livre, vous verrez que c'est extrêmement intéressant. Il y avait la guerre, il y avait... comment dirais-je... des persécutions. Et les Juifs tâchait de d'évader le pays. Et vous avez l'histoire maintenant ici d'un roi qui s'appelait Esther, le livre d'Esther, c'est juste après Néhémie. Voilà, ce roi perse était très riche et il était très... Il avait une femme très très belle et qui s'appelait donc, je pense, Vaché. Alors, ce roi perse, il était tellement heureux, humainement parlant, alors il n'avait besoin de rien, puis il se vantait partout, et il se vantait même à cause de la beauté de sa femme. Un jour, il fait un festin fantastique, il amène tout le monde, il appelle tout le monde pour montrer la beauté de sa femme. La reine. Mais la reine... Vashti n'a pas aimé ça. Pour résumer le tout, elle s'est révoltée contre son mari. Elle ne devrait pas. Bon, là encore, il y a une histoire que les femmes doivent obéir à leur mari en Christ. Ici, elle se révolte, et voilà que ce roi maintenant est seul. Ce roi cherche une vierge. C'était le désir des rois, toujours, avoir une jeune femme. Alors, en fin de compte, pour abréger l'histoire, il rencontre une juive, elle ne s'appelait pas Esther à l'époque, mais cette femme juive avait donc un oncle, Mardoché. C'est difficile de vous expliquer tout ça en quelques mots, vous n'avez qu'à lire. Mais ce qui se passe maintenant, vous avez Mardoché, un juif, sa nièce, qui devient Esther, qui devient la femme du roi. Et maintenant, vous avez une situation intéressante. Cette femme qui est devenue Esther, reine, n'était pas reine au commencement. Mardoché, qui était un juif, ne savait pas ce qui allait se passer. Et voilà que tout d'un coup, maintenant, la situation change. Tout d'un coup, Mardoché se révèle aux autres comme quoi les Juifs et les Perses détestent les Juifs. Voilà que la reine Esther, maintenant, voit son peuple, les Juifs, se faire massacrer. Rappelez-vous, il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Vous êtes à la place d'Esther. Je prends maintenant comme exemple. Vous avez une responsabilité. Vous jouissez de tout ce qui est bon dans ce bon monde. Vous avez de la richesse, vous êtes reine, vous avez l'opulence, vous avez tout. Vous voyez les vôtres souffrir. Qu'est-ce qui se passe? Mardoché envoie un message à Esther. Esther chapitre 4, verset 12. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardoché, Mardoché... Parce que, n'est-ce pas, on a dit à Esther, écoutez, ton peuple souffre, fais quelque chose. Alors, Mardoché dit à Esther, verset 13, ne t'imagine pas que tu échapperas toi-même seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu fais maintenant le secours, et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et ta maison, dit-il, de ton père, vous périrez. Autrement dit, si Esther ne fait pas ça par maintenant en tant que reine, elle perdra tout. Et qui sait, dit-il, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Là, c'est intéressant. Souvent dans votre vie, vous ne savez pas pourquoi les choses changent. Vous sortez d'un rien, voilà que vous arrivez à un poste important. Dans la Bible, vous voyez ça souvent, voyez-vous. Vous ne savez pas pourquoi. Comme vous voyez ici, peut-être c'est pour cette raison-là que Dieu vous confie quelque chose. Faites de votre mieux pour mettre en pratique ce que je vous dis. Ils vont mieux souffrir pour rendre service que de jouir de vos réjouissances, de vos jouissances physiques. Le fait est qu'il y a toujours plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ici, Esther avait un choix. Garder sa royauté, sa richesse et son poste, ou bien d'abandonner tout. Regardez l'exemple. Verset 15, Esther 4. Esther envoya dire à Mardochée, « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Sûr, jeûnez pour moi. » Voyez-vous, là encore, il y a tellement de choses à voir. Le jeûne n'est pas un sacrifice que vous faites pour Dieu. Le jeûne vous aide à vous rapprocher de Dieu. Le jeûne vous aide à comprendre que vous souffrez de quelque chose et que cette souffrance est nécessaire pour vous rendre compte que vous n'êtes rien. Donc ici, ce faisant, Esther s'approche de Dieu. Il dit, jeûnez pour moi. Mais c'est pas tout. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un jeûnez pour moi si vous-même vous ne faites pas votre part. Ne demandez pas à quelqu'un de prier pour vous, à moins que vous priez aussi vous-même. Autrement dit, ne négligez pas votre part, c'est idiot, c'est ridicule. Il y a des gens qui disent, priez pour moi. D'accord, mais soyez sûr que vous faites votre part. Vous obéissez à Dieu et vous priez aussi vous-même, comme vous devez le faire. Alors ici, elle dit, priez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours et 3 nuits. Allez voir ça. Mais, elle ajoute, verset 16, « Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai, dit-il, chez le roi, malgré la loi, parce qu'il y avait une loi qu'elle ne pouvait pas voir le roi, en moins que le roi l'appelle. Si je dois périr, dit-il, je périrai. » Allez voir ça. Voilà, une reine qui est prête à mourir pour rendre service. Et ouf, là encore, une fois encore, elle a changé le cours de l'histoire du peuple juif. Vous n'avez qu'à dire reste. Voilà ce que j'entends lorsque le Christ a dit, il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Parfois, voyez-vous, ces choses arrivent et vous ne vous rendez pas compte. Vous ne savez pas pourquoi ces choses arrivent. Mais si vous avez toujours en tête que Dieu est toujours là, que Dieu vous bénira et que vous faites votre part, vous verrez comment votre vie changera. Par contre, vous et moi, nous avons tellement de difficultés en ce bon monde et que nous voulons d'abord être sûrs que les choses vont bien pour nous. C'est humain, c'est normal, entre guillemets. C'est humain. Regardez les apôtres du Christ, les disciples du Christ. Étaient-ils meilleurs que vous et moi? Non. Ils avaient tous la même nature humaine que vous et moi. Certes, ils ont suivi le Christ, mais à moins de rester sur la bonne voie, ils pouvaient aussi faire demi-tour ou bien échouer. Regardez leur attitude. Ce n'est pas pour critiquer, c'est pour montrer ce que c'est que la nature humaine sous l'influence de Satan, surtout sous l'influence de l'égoïsme. Imaginez Luc chapitre 22. Mettez-vous à leur place. Lorsque nous lisons ces choses-là, nous pouvons voir qu'il y a beaucoup de leçons pour nous tous à apprendre de ces exemples. Luc, chapitre 22. Oui, vous savez, ça fait étrange. Ça fait étrange parce que vous avez ici le Christ qui est presque à la fin de sa vie terrestre. Il est trahi, il sera crucifié, les disciples sont avec lui, ils avaient l'Esprit charnel, ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Quelles a été, vous pensez, les idées des disciples du Christ? Lorsque vous voyez quelqu'un souffrir et que vous êtes son ami, quelles sont vos pensées si jamais quelque chose lui arrivait? Quelles sont vos pensées pour lui ou bien pour vous? Je dis, ce n'est pas pour critiquer. C'est votre histoire, c'est mon histoire. Notez-le. Luc, chapitre 22. Alors que le Christ est en train d'être arrêté, d'être crucifié, verset 24. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. Hein? Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Mais écoutez, c'est ridicule. Votre mère est en train d'être crucifiée. Vous voulez savoir, après ça, lequel d'entre nous ne seront le plus grand? Où est l'esprit de service? Où est l'idée de servir, d'être serviteur? Alors Jésus leur dit, les rois de ce monde, les nations, les maîtrisent. Et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même, dit-il, pour vous. Mais que le plus grand, voyez-vous, verset 26, le plus grand parmi vous soit comme le plus petit. Celui qui gouverne comme celui qui sert. C'est pas, comprenez-vous? Il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Voilà l'attitude. Il dit celui, car quel est le plus grand, dit-il, que celui qui est à table ou celui qui sert? Ensuite, il prend son exemple à lui et il dit, vous voyez qu'à lire le reste, il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir à sa façon ici dans cet exemple. Maintenant, avant de conclure, laissons parler un peu de vous et de moi. Nous sommes dans un monde où la plupart du temps nous avons des difficultés avec notre voisin à cause de notre religion. Nous observons le sabbat. Les gens critiquent et objectent au sabbat. Nous observons les commandements de Dieu, les 10. Les gens disent que ces commandements ne sont plus valables. Nous observons les fêtes de l'Éternel. Alors, de tous les côtés, nous avons des persécutions. Quelle doit être notre attitude? Toujours fidèle à Dieu. Toujours faire ce que Dieu nous dit, malgré les circonstances. Nous devons être prêts à supporter les conséquences. Et là, c'est une autre leçon. À travers la Bible, vous avez une instruction importante. Vous obéissez à Dieu, mais vous devez être prêt à subir les conséquences. Dieu est toujours avec vous. Mais humainement parlant, peut-être vous souffrirez. Vous faites quand même votre part. Vous faites quand même votre part pour obéir à Dieu. Car il y a toujours cette récompense divine qui est là. Rappelez-vous, il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et lorsque vous faites ce que Dieu vous dit, vous serez toujours béni. Prenons maintenant ce moment. Nous sommes nés pour servir. Et quel est le but de la vie? Je vous ai souvent dit, nous sommes nés parce qu'un jour, nous serons transformés lors de la résurrection des morts en êtres spirituels. En ce moment, nous sommes des serviteurs. Lorsque nous serons des serviteurs de Dieu, en tant qu'êtres spirituels, nous continuerons à être serviteurs de Dieu. Autrement dit, ce mot serviteur n'est pas un mot désagréable. C'est le but de la vie, que ce soit maintenant, en ce monde terrestre, ou que ce soit dans la vie future, lorsque nous serons des êtres spirituels. Et oui, en tant qu'êtres spirituels, nous serons des serviteurs. Mais frères et mes sœurs, si vous n'aimez pas ça, vous ne comprenez pas ce que c'est que la vie. Si vous ne comprenez pas le sens que nous sommes nés pour servir à toute éternité, à tout jamais, alors vous ne comprenez pas le sens, le but de la vie. Voilà pourquoi vous devez apprendre maintenant, aujourd'hui même. Je voulais vous parler de Moïse, mais prenez la Bible, étudiez la vie de Moïse, serviteur de Dieu. Souvent, la Bible l'appelle serviteur de Dieu. Les prophètes, serviteurs de Dieu. C'était des gens qui ont donné leur vie la plupart du temps pour servir. Il sera demain peut-être pour vous et pour moi, un jour, je ne sais pas. Le fait est que Dieu nous aime, Dieu nous protège. Et vous avez devant vous l'exemple des anges. Avez-vous jamais pensé aux anges? Avez-vous jamais entendu parler de démons? Vous avez entendu parler de Satan? Pour vous, Satan est-il réel? Il doit, parce que à travers la Bible, vous pouvez voir la réaction de Satan. Satan influence votre vie, si vous n'êtes pas sur vos gardes. Les démons sont ceux qui ont suivi Lucifer à l'époque, lequel est devenu Satan, après sa rébellion. Les démons veulent faire les choses à leur guise. Les démons se sont rebellés contre Dieu. Pourquoi est-ce que je vous dis ceci? Parce que nous sommes dans un monde où les démons sont toujours là. Les démons et Satan vous influenceront à ne pas croire à ce que je vous dis, à faire de sorte que vous soyez heureux vous-même, physiquement parlant. Tandis que le Christ a dit, il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Je parle d'anges. Pourquoi Dieu a-t-il créé les anges? Le savez-vous? Pouvez-vous trouver dans la Bible un verset quelconque qui vous dira « Voici la raison de l'existence des anges sur cette terre. » Hébreux chapitre 1. Ça peut vous étonner. Hébreux chapitre 1. Parce que il y a beaucoup de gens qui se demandent, mais pourquoi? Est-ce qu'il y a un ange? Il y a des gens, je ne vais pas entrer dans ce sujet, qui disent que leur ange les a protégés. Vous savez, j'y crois à ça, mais ça c'est autre chose. Le fait est que les anges, pourquoi les anges sont-ils ici? Et la question que je vous pose. Hébreux chapitre 1. Ici, Paul parle de Dieu, du Christ. Toujours du chapitre 1, il compare la différence entre le Christ et les anges. Il dit, il parle des anges. Verset 14, Hébreux 1, 14. Les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère, ministère signifie service, un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Lisez ce verset. Vous êtes vous et moi, nous sommes appelés pour hériter du salut. Les anges ont été créés pour être à notre service. Donc, voyez-vous, eux aussi, ils ont leur devoir. Alors, mes frères et mes sœurs, où en sommes-nous? Eh bien, laissez-moi vous donner un dernier. J'avais plusieurs choses, mais un dernier exemple, ou plutôt recommandation du Christ, c'est dans Luc chapitre 12. Luc chapitre 12. Entre-temps, prenez le temps d'étudier la vie du Christ, comme lui-même il a donné sa vie pour servir. Mais Luc chapitre 12 est très encourageant, car le Christ nous montre comment, en faisant notre part, nous serons bénis. Et c'est toujours notre part, c'est toujours consiste à servir, à faire notre devoir avec joie au cœur. Luc chapitre 12. C'est très court, c'est très beau. Le Christ a dit, ne crains, verset 32, ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vous vous rappelez? Il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Dieu donne son royaume à nous qui ne sommes rien. Et ensuite, le Christ nous met en garde en ce qui concerne ce monde où nous vivons. Il dit, vous ne savez pas quand le Christ reviendra. Il dit, verset 37, heureux, Luc 12, 37, heureux ces serviteurs de Dieu que le maître à leur arrivée ou à son arrivée trouve ce serviteur veillant. Il est toujours serviteur. C'est toujours la même chose comme nous avons vu dans Matthieu 24. Ensuite, il dit, qu'il arrive le matin, qu'il arrive le soir, qu'il arrive n'importe quand, sachez, dit-il, verset 39, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Et ensuite, il nous donne un avertissement solennel. Verset 40. Vous aussi, dit-il, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Mes frères et mes sœurs, remerciez Dieu chaque jour de ce qu'il vous a appelé pour servir. Remerciez-le de tout ce que vous avez afin de pouvoir accomplir la mission pour laquelle vous êtes né, quelle qu'elle soit. Car un jour, le Dieu suprême, le Christ, vous recevra dans ses bras et vous dira, c'est bon, c'est très bien, fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, reçois beaucoup d'autres choses, beaucoup de récompenses. Rappelez-vous toujours, quelles que soient les circonstances, quels que soient vos problèmes, quelle que soit la vie que vous avez, il y a toujours plus de bonheur à donner qu'à recevoir.